Et l'on débute avec le journal de Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une étude qui pourrait bien donner du grain à moudre aux gilets jaunes. L'INSEE révèle que les Français ont perdu 500 euros de revenus disponibles en moyenne entre 2008 et 2016, essentiellement à cause des politiques fiscales et sociales mises en place par les différents gouvernements. Les classes moyennes et les seniors sont particulièrement touchés.
Et puis au cinquième jour de mobilisation des gilets jaunes, alors que l'exécutif appelle au dialogue et à la fin des blocages, des députés de la majorité ne savent pas comment se positionner face à ce mouvement protéiforme.
Le prince héritier saoudien était peut-être bien au courant du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, mais cela ne remettra pas en cause la relation inébranlable entre Washington et Riyad. C'est ce qu'a déclaré hier Donald Trump, préférant préserver une alliance qu'il juge stratégique. À la une encore, Renault prépare l'après Carlos Ghosn. Et puis le site antique de Pompéi révèle encore des trésors, une fresque érotique découverte hier. Explication à la fin de ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, le Yémen, vous le savez, avec une situation absolument dramatique, s'achemine-t-on vers une solution diplomatique? On posera la question à l'anthropologue Franck Mermier, qui est un très bon connaisseur de ce pays.
Combien seront-ils à enfiler un gilet jaune encore aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron appelle au dialogue pour dénouer les tensions, pour débloquer physiquement les barrages filtrants et les entrées des dépôts de carburant? Ils étaient 10 000 à manifester hier, comme Jean-Michel, 62 ans, ancien de PSA à Belfort.
Je vais être clair avec vous, j'ai 1440 euros. J'ai mon épouse qui touche une retraite, elle a travaillé 17 ans. Elle a droit à 150 euros de retraite. On lui a ponctionné 15 euros sur la retraite, là, et puis 15 euros sur la CSG. Vous trouvez ça normal? On peut le dire, on avait des acquis sociaux. Ça se passait très bien. Je pouvais envoyer mes enfants au cinéma, mes petits-enfants, tout. Maintenant, on ne peut plus. J'ai fait 100 euros de course. J'ai payé 16,50 euros de taxes. Vous trouvez ça normal? Mais c'est honteux.
Jean-Michel, retraité de 62 ans, au micro de Nicolas Wilhelm de France Bleu Montbéliard. Et voici de quoi alimenter peut-être la colère des retraités avec ou sans gilets jaunes. Entre 2008 et 2016, les ménages français ont perdu en moyenne près de 500 euros de revenus disponibles. C'est ce que révèle le dernier portrait social de la France, dressé par l'INSEE. Cette baisse de pouvoir d'achat s'explique par les réformes fiscales et sociales mises en place par les différents gouvernements, les classes moyennes particulièrement touchées, les seniors aussi, avec la progression de leur niveau de vie stoppé net en 2010, Anne-Lorchouin.
Depuis les années 70 et jusqu'au milieu des années 90, les seniors, des retraités pour la grande majorité, voyaient leur niveau de vie progresser et progresser plus que celui des actifs. Grâce notamment à la hausse des pensions de retraite, au développement de l'activité pour les femmes, de nouveaux droits familiaux liés à la naissance des enfants et au développement également des régimes de retraite complémentaires. À partir de 1996, cette progression du niveau de vie des seniors rattrape celle des actifs. Puis ces deux progressions s'alignent. Entendez, les revenus des deux catégories actifs, d'un côté seniors de l'autre, progressent au même rythme, et ce jusqu'en 2010. En 2011, tout s'interrompt, le revenu moyen des actifs diminue, quand celui des seniors, la génération née donc entre 1946 et 1950, stagne. Pour la première fois depuis les années 20, la génération actuelle des seniors connaît le même niveau de revenus que la génération précédente. Et selon toutes les prévisions, cette stagnation devrait se transformer en diminution pour les générations prochaines. En bref, la courbe de la progression des revenus des seniors s'est arrêtée avec la crise. Depuis, elle amorce son inversion. L'INSEE avance quelques facteurs d'explication. La crise d'abord et les ajustements budgétaires qui l'ont suivi ont conduit à une hausse des prélèvements sociaux et fiscaux, notamment sur les revenus du patrimoine. Or, ce sont les seniors qui possèdent le plus de patrimoine. Et dans le sillage de la crise également, les réformes successives des retraites qui ont conduit à cette baisse du niveau de vie. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, projette que d'ici 2020, le niveau de vie des seniors devrait baisser progressivement jusqu'à devenir inférieur à celui des actifs d'ici 2025.
Et aujourd'hui, 3% des seniors exercent encore une activité professionnelle après 65 ans, le plus souvent cumulée avec la retraite. Un chiffre qui a triplé en 10 ans et qui s'explique souvent par la volonté, par le besoin de compléter ses revenus, indique l'INSEE. 2 morts et 552 blessés. C'est le dernier bilan fourni par le ministère de l'Intérieur cette nuit sur le mouvement des Gilets jaunes. Ces 4 jours de manifestation ont donné lieu à 582 interpellations, 95 blessés parmi les forces forces de l'ordre. Des débordements dénoncés hier par certains députés de La République En Marche lors des questions au gouvernement à l'Assemblée. Si l'opposition de droite comme de gauche attaque l'exécutif qui reste inflexible face aux demandes des Gilets jaunes, au sein de la majorité, des députés LREM ne savent pas bien comment se positionner face à ce mouvement protéiforme. Le reportage à l'Assemblée de Maureen Suignard.
C'est d'abord l'hétérogénéité du mouvement qui bouscule la majorité. Le député de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari, quelque peu désemparé.
Vous avez chez les Gilets jaunes des gens qui veulent plus de services publics et vous avez en même temps ceux qui veulent moins d'impôts. Vous avez ceux pour qui l'écologie est première, ceux pour qui c'est secondaire, ceux pour qui c'est pas un sujet. Donc quand vous avez cette agrégation de mécontentement mais que vous n'avez pas en face de cohérence politique, c'est quand même compliqué pour nous d'y répondre.
Mais c'est là que les députés sont indispensables pour dénouer le conflit, assure Bruno Bonnel, député du Rhône.
La solution sera de répondre à cette fragmentation par des propositions presque chirurgicales. Donc le rôle, encore une fois, du terrain, des députés, sera important pour dire mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous dire et qu'est-ce qu'on pourrait réparer.
Des élus qui, pour certains, prennent leur distance avec la fermeté affichée du ministre de l'Intérieur, qui pointait hier du doigt une radicalisation et une dérive totale du mouvement. Et puis il y a ceux qui demandent des mesures supplémentaires et radicales, notamment Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire.
On a eu des belles mesures du gouvernement sur les nouvelles mobilités, changer de véhicule, etc. Il faut qu'on ait l'équivalent aujourd'hui sur la baisse des factures d'énergie. Pourquoi pas des dispositifs innovants pour aider tous les Français et qu'aucun ne soit, comme aujourd'hui, empêché de faire des travaux qui sont rentables. C'est une réponse compatible avec l'urgence sociale d'aujourd'hui et avec les enjeux écologique de demain.
Des députés qui ne sont pas encore des frondeurs, ils ont adopté hier en première lecture le projet de budget 2019 qui contient la hausse de taxes sur les carburants.
Elle a décidé de rejoindre les blocages. La fédération FO Transport appelle à soutenir les Gilets jaunes dans la rue. Le troisième syndicat de chauffeurs routiers parle d'un geste de solidarité avec un mouvement citoyen face, je cite, au mépris et à l'arrogance du gouvernement. Certains observateurs y voient l'influence de militants proches de Marine Le Pen. Une récupération dont ne veut pas la CGT qui annonce sa propre journée de manifestation pour le pouvoir d'achat le 1er décembre prochain. Aujourd'hui et demain, quelques 200 cadres de force ouvrière hier se réunissent à Paris pour élire le secrétaire général de la Confédération, pour débattre aussi de la crise qui secoue le syndicat depuis des révélations sur l'existence d'un fichier controversé et la démission de Pascal Pavageau. Le député du Nord, Fabien Roussel, a été choisi hier soir pour succéder à Pierre Laurent à la tête du Parti communiste un peu plus d'un mois après un vote inédit qui a mis la direction en minorité. Ce choix de la commission des candidatures du PCF doit encore être entériné dimanche midi lors du 38e congrès du parti à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Un tribunal de Tokyo vient de décider ce matin de maintenir Carlos Ghosn en détention pendant 10 jours. C'est ce que révèle un média japonais. Carlos Ghosn, le bâtisseur de l'empire Renault, Nissan, Mitsubishi, est soupçonné d'avoir dissimulé la moitié de ses revenus au fisc au Japon. En France, Renault prépare l'après Carlos Ghosn. Le numéro 2 de l'entreprise, Thierry Bolloré, a été choisi pour assurer l'intérim. On y revient dans le journal de 7h30.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Près de 2 mois après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul, les États-Unis semblent ne pas vouloir lâcher le prince héritier Mohamed Ben Salman.
Hier soir, dans un communiqué, Donald Trump a certes expliqué qu'il n'excluait pas qu'MBS soit impliqué dans cet assassinat, mais quoi qu'il arrive, Washington est et restera un partenaire inébranlable de Riyad. Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
Sans attendre les conclusions de la CIA, qui selon plusieurs médias américains pensent que le prince héritier Mohamed Ben Salman est bien le commanditaire du meurtre de Khashoggi. Donald Trump écrit ceci. Il se pourrait très bien que le prince ait eu connaissance de cet événement tragique. Peut-être était-il informé, mais peut-être pas, est-il écrit dans le communiqué du président américain. Mais dans tous les cas, les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie Saoudite. Trump cite les contrats d'armement avec Riyad, 110 milliards de dollars. Il évoque aussi la stabilité de la région et la protection des intérêts américains. Jamal Khashoggi vivait réfugié aux États-Unis. Il écrivait pour le Washington Post, le grand quotidien de la capitale fédérale, mais tout ceci n'a visiblement pas d'importance aux yeux de la Maison Blanche, ce qui provoque la colère de plusieurs représentants et sénateurs ici à Washington. Le sénateur républicain Lindsey Graham, pourtant un proche de Trump, écrit « Lorsque l'Amérique perd son sens moral, elle perd sa plus grande force.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. De son côté, la Turquie se dit insatisfaite du niveau de coopération de l'Arabie Saoudite dans l'enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. Ankara pourrait demander une intervention des Nations Unies, c'est ce que déclare le ministre turc des Affaires étrangères. L'Arabie Saoudite, mise en cause par ailleurs par Amnesty International pour avoir torturé systématiquement des activistes de défense des droits des femmes, emprisonnées dans le royaume depuis le printemps dernier sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Amnesty a recueilli des témoignages sur des cas d'électrocution, harcèlement sexuel, au point que certaines prisonnières ont tenté de mettre fin à leurs jours. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de l'année en Afghanistan. Un attentat suicide à Kaboul lors d'un rassemblement religieux a fait au moins 50 morts et 72 blessés hier. C'est une Theresa May sous pression qui se rend à Bruxelles aujourd'hui. La première ministre britannique doit rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour régler les points encore en suspens sur le Brexit en amont d'un sommet spécial qui réunira dimanche les dirigeants des pays de l'Union européenne, à moins de 5 mois par ailleurs de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les ébats de la reine de Sparte, Léda, avec Zeus qui a pris la forme d'un cygne pour la séduire. Cette scène de la mythologie grecque a été retrouvée sur une fresque érotique à Pompéi, magnifiquement préservée dans ce qui pourrait être la chambre à coucher d'une vieille maison de la ville romaine, ensevelie en 79 avant Jésus-Christ par l'éruption du Vésuve. Les précisions de notre correspondante en Italie, Mathilde Lamberti.
Pompéi, source inépuisable de découvertes et pour la dernière en date, des plus sensuelles. La fresque révélée à l'occasion de travaux de mise en sécurité du site représente la reine Sparte-Léda et ses débattorides avec Zeus. Le dieu apparaît sous la forme d'un cygne pour séduire la monarque sur cette œuvre d'art retrouvée dans un état intact dans la chambre à coucher d'une maison de Pompéi. Cette fresque érotique, découverte exceptionnelle et unique, a commenté le directeur du parc archéologique, est destinée à être exposée dans un musée pour pouvoir être admirée de tous. Dans la maison où elle se trouvait par le passé, une peinture représentant le dieu Priape et son pénis en érection déjà avait ému les équipes d'archéologues. Pompéi, foulée au fil des siècles par des armées de professionnels, regorge encore de trésors. La ville de Campanie, ensevelie sous la lave du Vésuve en l'année 79, en octobre 79 et non pas en août, comme affirmé durant des années, la date de l'événement vient d'être percée à jour grâce à un graffiti laissé dans une maison de la ville et présenté seulement le mois dernier.
Mathilde Imberti en Italie pour France Culture. Le temps de ce mercredi 21 novembre, chargé du nord-est à la Méditerranée, partagé en traverse et neige. Dans la moitié ouest du pays, une alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles pluies aujourd'hui. Attention aux gelées ce matin et au brouillard givrant. Il fait entre moins 5 et moins 3 degrés du centre à la Nouvelle-Aquitaine, 0 à 8 degrés partout ailleurs ce matin du nord au sud. Cet après-midi, comptez de 3 à 7 degrés en général sur la moitié nord du pays, 8 à 10 sur la pointe bretonne, 7 à 12 degrés au sud, jusqu'à 18 en Corse, Guillaume.
Merci beaucoup, Catherine Dutune.